Bonjour à tous, on se retrouve pour une émission spéciale pour les 100 ans de la FSEF. Nous nous trouvons au cœur du jardin de la clinique des 4 cantons de Villeneuve-d'Ascq, ce qui explique un petit peu le bruit que vous pouvez entendre autour de nous. Je m'appelle Constance, je suis avec Maëlle.
Bonjour.
Et Antonin.
Bonjour.
Dans cette émission, on va vous présenter un petit peu les différentes parties de la clinique des 4 cantons, c'est-à-dire tout d'abord les soins, puis les études et enfin tout ce qui est activité de réadaptation. Nous commencerons avec Madame Petit, directrice de la clinique. Bonjour Madame Petit, merci d'être avec nous. Je vais vous demander de vous présenter la clinique et de présenter votre rôle dans la clinique.
Alors du coup, je suis Aline Petit, je suis directrice de l'établissement donc, de FSEF de Villeneuve-d'Ascq, également directrice d'un deuxième établissement FSEF à Vitry-le-François. Donc, je suis arrivée en début d'année 2022, en janvier 2022 à Villeneuve-d'Ascq, et mon rôle au sein de la clinique, c'est de diriger d'une manière générale l'établissement. Donc ça veut dire organiser l'ensemble des services, orchestrer l'ensemble des services, des professionnels, mettre à disposition les moyens pour qu'on puisse proposer des conditions de prise en charge de nos patients qui soient adaptées et de qualité pour l'ensemble des patients pris en charge au sein de l'établissement.
Du coup, aujourd'hui, c'est les 100 ans de la FSEF. Qu'est-ce que ça représente pour la FSEF et puis potentiellement pour vous aussi en tant que directrice d'établissement ?
Alors, les 100 ans, alors moi, ça fait assez peu de temps que je suis au sein de l'établissement, mais les 100 ans, c'est déjà une preuve de la pérennité de la fondation, de la capacité de la fondation à avoir su s'adapter dans le temps. D'abord en proposant des prises en charge liées à des pathologies sur la tuberculose en 1923. C'est l'origine de la fondation. Et au fil du temps, au fil des avancées scientifiques et de la médecine, on s'est adapté aux différentes pathologies, toujours centrées sur le public des adolescents et jeunes adultes. Donc avec aujourd'hui quasiment 50% de l'activité de la fondation qui gère des activités de psychiatrie pour les jeunes adultes ou adolescents. Donc ici à Villeneuve-d'Ascq, l'établissement a ouvert en 2005, donc on n'a pas 100 ans, mais on s'inscrit dans une politique nationale de répondre aux besoins des jeunes et en alliant la médecine, les prises en charge de soins, et la reprise des activités scolaires ou l'élaboration de projets pour que les jeunes ados puissent retrouver un sens à leur parcours de soins et de scolaire.
D'accord, super, merci. Bah, écoutez, c'est une super présentation et introduction pour ce début d'émission. Merci à vous.
Merci de votre accueil.
Pour continuer cette émission, nous sommes avec Zineb ASL au sein de la clinique des 4 cantons. Bonjour Zineb.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez présenter votre rôle au sein de la clinique ?
Alors oui, alors ASL c'est agent de service logistique. On contribue au bien-être du patient, donc tout ce qui est les chambres, donc le bio-nettoyage, les sorties, les entrées et les quotidiennes. On assure la propreté des locaux tous les jours.
Eh bien, c'est vrai que vous avez un rôle super important. Vous entretenez l'espace de vie des patients et ce qui contribue vraiment au bien-être. Est-ce que comment vous vivez ce rôle ?
Alors, je le vis bien. Je suis même fière parce qu'on contribue au bien-être du patient. Et pour moi, c'est primordial, en fait.
Bah, merci beaucoup parce que
je vous en prie.
Donc, la clinique est composée de 3 services. 2 services qui sont en lien avec les études, c'est-à-dire l'HDJ, donc l'hôpital de jour, où les patients viennent du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi, ainsi que de l'HTC, hôpital temps complet, où les patients sont là en continu. On a également un troisième service un peu plus à part, qui c'est l'US2A, donc l'unité de soins attentifs à l'adolescent. Ils ne sont pas reliés aux études. C'est un lieu pour faire une pause, faire un bilan. Voilà. Et nous avons avec nous donc Lavish, infirmier en hôpital de jour.
Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre rôle en tant qu'infirmier en HDJ ?
Accueillir des jeunes ados, et on essaye de mettre le soin et les études en même temps, de combiner les deux pour que ce soit équilibré. Pour chaque jeune, c'est différent. Certains ils commencent par un petit peu de cours, un test pour voir le niveau. Des autres, ils viennent de l'université, par exemple, et qui viennent quelques jours seulement dans la semaine, selon leur emploi du temps à l'université. Et entre ça, il y a aussi les trois niveaux, seconde, première, terminale. Et on va s'adapter. Qu'est-ce qui est prioritaire ? Les études, le soin, mais il faut que ce soit imbriqué parce qu'on ne peut pas laisser quelqu'un commencer les études quand il y a trop de stress encore. Alors on décide des fois d'enlever certains cours, un aménagement. Le soin consiste à des ateliers. Et chaque fois, on va analyser, chacun dans son propre domaine, qu'est-ce que le jeune a besoin, qu'est-ce qu'il met en avant, comment on va s'adapter par rapport à ça.
Du coup, en fait, si on résume un petit peu, ouais, votre rôle en tant qu'infirmier, ça va être de faire un petit peu un bilan de ce qu'a besoin le jeune, tout en étant attentif à ses besoins. Et,
alors, c'est ça, je discute souvent avec le jeune pour voir qui fait quoi. Le psychiatre, c'est en fait la personne qui décide si le jeune a sa place à la clinique. Après, il va avoir une prise en charge spécifique, psychologue, mais ils ont différentes spécialités de psychologie ici. Alors, ça peut être plutôt sur le comportement, ou il peut avoir des déficits, alors ça va être plutôt le neuropsychologue. Voilà, il y a plusieurs branches, alors il va voir quel psychologue c'est le plus adapté, qu'est-ce qu'on a aussi ici en service disponible. Après, l'éducateur, si c'est le jeune qui va plutôt vers l'extérieur, qui va vouloir trouver un appartement, de mettre un budget en place, de trouver quelles études ils vont faire, ils vont visiter des CIO. Et l'infirmier va être juste plus occupé de la vie de tous les jours, l'hygiène de vie. Dormir, vêtir, manger, tout ça, c'est l'infirmier. En psychiatrie, c'est plus spécifique, parce qu'il y a moins de soins somatiques. Il y en a, mais ce n'est pas en premier plan. Et c'est plus l'accompagnement aussi, par le moment plus difficile, qu'en fait, il y a un premier interpellant qui dit, voilà, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que je veux demander un psychiatre qui va en entretien, est-ce que c'est nécessaire ou pas, ou est-ce qu'on va regarder la journée déjà pour trouver un entre-deux. Par exemple, on arrête les cours aujourd'hui pour pouvoir se poser parce que c'est pas la peine de continuer.
Et du coup, vous avez parlé du bien-être du patient et tout. Est-ce que vous, personnellement, vous avez des activités que vous menez pour le bien-être du patient ?
Ouais, j'ai fait plusieurs ici. Il y a jardinage, par exemple, qu'on a fait, équitation, on a fait créativité, peinture, pour exprimer aussi. Et là, j'ai fait s'exprimer, j'ai fait qigong et escrime avec une éducatrice qui est le pilote de l'atelier, et moi, je suis le copilote. Moi, je suis pilote de qigong. C'est pour travailler en fait le contact avec le corps, pour rééquilibrer le mental et le corporel. Et c'est une discipline qui est à la ralentie, pour justement on est moins dans le tout de suite immédiat, et mais aussi de que on va écouter son corps, qu'est-ce qu'il envoie et comment on peut le mieux se libérer de les tensions. Enfin, ça, en gros, c'est très complexe, le Qigong. Il y a plein de trucs qui viennent en plus et tout ça. Mais c'est un travail corporel et important aussi.
Ok, super, merci beaucoup. Bah, on voit qu'il y a beaucoup de... grosse diversité d'activités possibles au sein de la clinique. Merci beaucoup. Les bruits que vous entendez autour de nous sont toujours le fruit de l'agitation créée par la fête. On a des jeux flamands qui sont présents. On a un petit peu de cris de personnes qui jouent au foot. Donc on va faire une petite pause musicale avec Blizzard de Fauve.
Je te demande si tu es une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre. Et t'es l'une chose encore. Tu es infiniment nombreux. Celui qui méprise. Celui qui blesse. Celui qui aime. Celui qui cherche. Et tous les autres ensemble. Trompe-toi. Sois imprudent. Tout n'est pas fragile. N'attends rien que de toi. Parce que tu es sacré, parce que tu es en vie, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être.
Des trucs pareils. Pourquoi tu te fais du mal comme ça? Qu'est-ce qui va pas? Parle-moi, tu sais que tu peux tout me dire. Mais non, mais c'est des conneries tout ça, tu le sais. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi. On s'en branle, c'est pas important. Moi je te trouve magnifique. Depuis la première fois que je t'ai vu d'ailleurs, je m'en suis toujours parmi. Et puis comment je presse en toi, moi? Et puis comment l'univers il presse en toi? Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller. Parce qu'on est de ceux qui guérissent, de ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle. Pas de ceux qui disent que lorsque les tables bougent, c'est que quelqu'un les pousse du pied. Et un jour tout ça on n'y pensera même plus, on aura tout oublié, comme si ça avait pas existé. En attendant, passe tes bras autour de mon cou si tu veux. Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan. Tu te souviens? Tu te souviens? Tu nous entends le blizzard? Tu nous entends? Si tu nous entends, va te faire enculer. Tu pensais que t'allais nous avoir, hein? Tu croyais qu'on avait rien vu? Surprise connard! Tu nous entends la honte, tu nous entends? Si tu nous entends, fais gaffe quand tu rentres chez toi toute seule le soir. On pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal ou de te laver la tête avec du plomb. Qu'est-ce que t'en dis? Tu nous entends la tristesse, tu nous entends? Si tu nous entends, c'est que toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac. Prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche et aller niquer ta race. Félicitations, bravo! Tu nous entends la mort, tu nous entends? Si tu nous entends, sache que tu ne fais pas peur. Tu peux tirer tout ce que tu veux. On avance quand même, tu pourras pas nous arrêter. Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner. Tout ça c'est fini. Tu nous entends la dignité? Tu nous entends? Si tu nous entends, sache qu'on a un genou à terre et qu'on est désolé. On est désolé de tout ce qu'on a pu te faire, mais on va changer. On va devenir des gens bien, tu verras. Et un jour tu seras fier de nous. Tu nous entends l'amour, tu nous entends? Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant. Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu en as compris. Et là on a les paumes ouvertes avec notre cœur dedans. Il faut que tu le prennes et que tu l'emmènes. Tu nous entends l'univers, tu nous entends? Si tu nous entends, attends-nous, on arrive. On voudrait tout comprendre, tout savoir, tout voir, tout vivre. On cherche la porte du nouveau monde pour pouvoir s'y fondre en grand. Tu nous entends, toi qui attends? Tu nous entends? Si tu nous entends, souviens-toi que t'es pas tout seul, jamais. On est tellement nombreux à être un peu bancal, un peu blizzard. Et dans nos têtes, y'a un blizzard. Tobé mystique, loser au grand cœur. Il faut qu'on sonne l'alarme, qu'on se retrouve, qu'on se rejoigne, qu'on s'embrasse, qu'on soit des milliards de mains sur des milliards d'épaules, qu'on se répète encore une fois que l'ennui est un crime, que la vie est un casse du siècle, un putain de piment rouge. Nique sa mère le blizzard. Nique sa mère le blizzard.
Nous venons venons d'écouter Blizzard de Fauve. Après la partie sur les soins, on va s'intéresser à la partie des études avec Maëlle.
Bonjour. Alors nous retrouvons avec Madame Guilhuy, professeure d'histoire géo. Bonjour Madame.
Bonjour.
Est-ce que vous pourrez un peu nous présenter votre rôle en tant que professeure au sein de la clinique ?
Alors, moi, je vais peut-être juste dire depuis quand je suis professeure dans la clinique. Donc, je suis arrivée en septembre 2015, sur la rentrée de septembre 2015. Donc, ça fait 8 ans maintenant que j'enseigne ici. Donc, sur un poste d'histoire-géographie. Et donc, avec la réforme aujourd'hui, j'enseigne sur le niveau seconde, le niveau première en AGGSP, le niveau terminal en tronc commun AGGSP. Et je suis aussi prof principale de terminale. Voilà.
D'accord. Et aussi, vous pourriez nous parler du SAS.
Alors, le SAS, c'est un dispositif en fait qui existe, en tout cas qui est réfléchi depuis quelques années. On s'était posé la question avec les collègues d'une prise en charge peut-être un petit peu différente pour des élèves qui arrivent avec un décrochage qui est très très long, c'est-à-dire un décrochage scolaire qui remonte à plus d'un an. Donc pour des élèves qui n'ont pas eu cours du tout pendant plus d'un an, donc pour X raisons, hein, on ne va pas revenir sur les raisons de santé, mais et qui de ce fait se posent beaucoup de questions sur leur scolarité. Et ça nous en pose aussi à nous, c'est-à-dire que souvent des élèves qui arrivent avec un décrochage qui est un petit peu long, quand il faut reprendre une scolarité classique en seconde, en première ou en terminale, bah c'est parfois compliqué parce qu'on a perdu les habitudes scolaires. Donc en fait, la prise en charge du SAS, on prend en charge 6 élèves. Donc il y a 4 élèves d'HTC, 2 élèves d'HDJ, hein, toujours sur cette moyenne-là. Le SAS en fait fonctionne de vacances à vacances. Donc il y a 5 sessions en fait de SAS pour une année scolaire. Et dans ce SAS, en fait, l'idée c'est vraiment de travailler en lien avec les soins, donc la prise en charge du jeune qui arrive dans le SAS, c'est une prise en charge qui est assez complète, donc il y a forcément une prise en charge soins, et puis les études, il y a 10 heures de cours, mais qui ne sont pas des cours classiques, parce qu'on ne peut pas faire des cours de seconde, première, terminale, puisqu'on est sur du multiniveau. L'idée, c'est d'évaluer le niveau à l'instant T de l'élève. Donc on passe en fait par des petites étapes comme ça d'évaluation qui nous permettent de situer le niveau scolaire de l'élève, et à la fin du SAS, on produit en fait un petit bulletin de compétences qui permet aux jeunes de savoir où il en est dans sa scolarité, et nous on décide si la prise en charge ici continue, si elle est possible, ou si elle s'arrête parce que le niveau scolaire n'est pas là, parce que les soins ne correspondent pas, etc. etc.
Voilà. Donc avec vos explications, on se rend bien compte que vous tenez compte des difficultés et des souffrances des patients et patientes. Donc, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un lien qui se crée aussi avec les élèves, qui sont patients, mais aussi forcément élèves, ou peut-être du moins un lien différent qu'avec des élèves dans un lycée plus lambda ?
Alors si, bien sûr, parce que, comme je l'ai dit au départ, déjà moi je fais cours du niveau seconde au niveau terminal. Donc ce qui fait que généralement, et ça arrive quand même assez souvent, je peux avoir des élèves pendant 2 ans, 3 ans, ce qui arrive peu souvent dans une structure, dans un lycée classique, parce que d'année en année, vous changez d'équipe pédagogique, en fait, les profs ne sont pas les mêmes. Donc clairement, on crée des liens un petit peu différents avec nos élèves parce qu'on les voit aussi arriver avec leurs difficultés. Alors nous, en tant que pédagogues, on n'a pas toutes les données du dossier médical, mais à force de travailler dans la structure, il y a des petites choses qu'on perçoit, des petits signes qui font qu'on arrive à un peu à savoir pourquoi l'élève est là et comment l'accompagner. Et puis l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est sur des tout petits effectifs. Alors tout petit cette année en terminale, c'était 19, voilà, on connaît nos élèves vraiment à fond, on travaille en lien avec les équipes de soins dès qu'il y a des problématiques. Et puis je pense qu'on est aussi sur une équipe pédagogique ici qui est là parce qu'elle veut être là, c'est pas une obligation, je le dis à chaque fois aux gamins, c'est une vraie volonté d'être là et du coup d'aborder aussi la pédagogie de façon un tout petit peu différente. Il faut redonner confiance, il faut redonner confiance en soi, redonner confiance en l'éducation nationale, parce que généralement il y a quand même une, je vais pas vous l'apprendre, mais souvent quand vous arrivez, il y a, c'est un petit peu tendu, quoi. La relation entre vous et l'éducation nationale, c'est pas toujours au beau fixe. Il faut aussi parfois apprendre à décélérer, c'est-à-dire à dire aux gamins, attention, c'est pas que tu bosses trop, mais là tu bosses trop et ça te rend malade. Et il faut faire attention à ça. Donc oui, ça crée forcément un lien. Le lien, il est différent. Moi, j'ai encore beaucoup de nouvelles aussi de mes anciens élèves. Ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur, de savoir un petit peu ce qu'ils deviennent à l'extérieur. Et puis, je pense qu'il y a une fierté aussi. Moi, j'ai cette chance d'être sur le niveau terminal, donc d'être sur l'année qui est un peu compliquée parce qu'il y a Parcoursup, parce qu'il y a le bac, parce qu'il y a beaucoup de pression. Alors, c'est déjà complexe pour un élève de terminal lambda. Pour les miens, c'est d'autant plus difficile et je trouve que le courage dont ils font preuve et les réussites qui sont les leurs, elles ne sont pas volées, quoi. Voilà. Donc, je suis toujours très, très, très fière de ça.
D'accord, merci beaucoup de vos explications.
Et je t'en prie. Au revoir, Mel.
Donc, dans la continuité de notre émission, donc nous venons de parler avec Mme Guilhuy. Nous allons maintenant accueillir Mme Ternois. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Mme Ternois, est-ce que vous pourriez un peu nous vous présenter alors, en tant que professeure de français au sein de la clinique, un petit peu votre rôle.
Mon rôle, donc effectivement, j'enseigne le français à la clinique en seconde, première, terminale. Et je suis aussi prof principale en classe de première. Après, je propose aussi un club théâtre au sein de la clinique avec les élèves de seconde et de première. Et plein d'autres initiatives. On sort beaucoup, on va au musée, on travaille sur l'extérieur. Et pas mal de choses avec vous, les élèves. Et puis, bon, je suis quand même assez investie et je travaille aussi avec mes collègues. On essaie de monter des projets.
Vous essayez d'aborder le français de façon un petit peu plus pédagogique, notamment quand vous nous avez demandé de travailler sur une présentation des fleurs du mal en dessin ou enfin de façon plus artistique. Mais malgré tout, nous sommes des élèves. Est-ce que... un petit peu, vous faites le lien avec l'extérieur, avec, on va dire, la vie un petit peu plus réelle, finalement.
L'idée, c'est vraiment d'abord de vous préparer au bac comme les autres élèves. Hein. Vous êtes des lycéens, avant tout. Évidemment que c'est dans un lieu particulier. Mais nous, on est là. Notre travail, c'est de vous préparer sérieusement au bac, donc à passer ces épreuves-là. Après, on vous accompagne différemment. Moi, tu évoques quelque chose qui m'est très cher, donc ce lien avec l'art plastique et avec d'autres arts en particulier comme le théâtre. J'estime qu'en fait, ma matière, elle est au confluent de justement beaucoup d'arts et que ça vous permet aussi de vous exprimer autrement que par le scolaire. Donc je fais ce lien en permanence. Je pense que ça donne aussi envie de lire, ça donne envie de découvrir. Et c'est aussi pour ça que je suis enseignante. Mais évidemment, l'objectif premier, c'est aussi de vous amener à passer ce bac en vous faisant découvrir des grands textes et en espérant que peut-être à certains moments, vous avez eu une rencontre avec un livre, un auteur, un personnage de roman. Pour moi, c'est essentiel.
Là, vous évoquiez un petit peu l'art, notamment la littérature. Est-ce que, par exemple, il y aurait un auteur, une autrice, un personnage que vous avez beaucoup, vous avez aimé présenter, faire découvrir à vos élèves ?
Alors écoute, moi j'ai tellement de personnages en tête que c'est pas facile de choisir. Tu sais que nous avons un programme imposé en français, donc je n'ai pas toujours ce choix d'œuvre. Moi, ce que j'essaie de faire au quotidien, c'est de vous donner envie de découvrir. Alors, mon premier grand souvenir de lecture, ça a été Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Je pense que je l'ai lu toute la nuit. Et le matin, je me suis réveillée. Mes parents ont vu que je n'avais pas vraiment dormi. Et quand je leur ai expliqué pourquoi... Bon, bah voilà, ils ont trouvé que c'était plutôt chouette comme excuse. Et voilà, tu vois, moi, j'ai eu la chance de découvrir ce plaisir de lire. Et mon objectif aussi, évidemment avec le bac, c'est aussi que vous ayez ce temps de découverte. Et je trouve que il y a des livres qui vous parlent ou pas. Moi, mon objectif, c'est aussi de vous permettre, à un moment donné, d'arriver à entrer dans une œuvre et que ça vous parle. Et je pense que les œuvres qui ont été choisies cette année, peut-être toi, Maëlle, ou un autre, à certains moments, ça vous a dit quelque chose de vous-même aussi. Et c'est, je pense, l'objectif premier de la littérature.
Oui, finalement, c'est un petit peu... Enfin, vous contribuez à la reconstruction, à la découverte de nous-mêmes.
Et puis, ce travail, on le fait ensemble. Et tu sais, très paradoxalement, en fait, vous nous faites aussi beaucoup de bien. Enfin, on est ensemble dans le même bateau. Et quand vous m'expliquez, vous détaillez vos lectures, quand vous me montrez vos premières découvertures réalisées en peinture, en dessin, etc., vous me faites un énorme cadeau parce que, en fait, vous arrivez à vous dévoiler, vous me faites confiance. Et là, je pense qu'on travaille vraiment ensemble. Donc, ça, c'est énorme pour moi. C'est vraiment pour ça aussi que je fais ce métier.
D'accord.
Et je trouve qu'il y a eu de très beaux moments cette année, quand voilà, vous avez pu me faire découvrir aussi ce que vous faisiez en dehors de l'école. Et c'est aussi pour ça que je ramène l'art au cœur du système scolaire, parce que je pense que les élèves, évidemment, peuvent exister par leurs notes, par leur réussite scolaire, mais ils ont aussi des choses à dire et à exprimer. Et je me rends compte qu'ils ont souvent des talents. Et c'est l'occasion aussi d'exister autrement que par le scolaire.
Oui, d'ailleurs, donc là, nous sommes du coup donc à la fête des 100 ans de la clinique. Il y a différents stands qui sont gérés par des patients. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, ce qu'il y a, ce qui...
Alors moi, tu vois, au fur et à mesure des livres que nous avons étudiés ensemble, je me suis rendu compte que vous aviez des talents. Et donc, j'ai proposé à certains élèves, je pense à Milena, Charlie, et il y en a d'autres, hein, toi aussi d'ailleurs, de ramener les peintures qu'ils font sur l'extérieur. Et donc, ils sont en train d'exposer. On avait préparé une pièce de théâtre. Bon, finalement, il y a certains élèves qui sont sortis de la clinique, donc ça ne va pas se faire. Mais ce n'est pas grave. Tout ce travail préparatoire, on l'a vécu ensemble. Moi, je pense que ces élèves, rien que de répéter, ça leur a fait du bien d'exister, de montrer ce qu'ils étaient capables de faire. En fait, il faut oser. On ose tout, après on réussit ou pas, ça c'est pas le plus important. On ose, en fait on se lance, il faut apprendre à oser. Et on est là aussi pour vous accompagner dans ça. Et moi, la première, des fois je dois me lancer, je pense à mon atelier théâtre. Je n'ai pas forcément envie de faire l'exercice, mais je vais le faire avec vous, parce qu'il n'y a pas de raison, on est ensemble dans le même bateau. Et bon, peut-être que je suis un peu ridicule, mais ce n'est pas grave. Sachant que mon métier, c'est aussi un métier de comédien. Hein. Quand on est enseignant, on est aussi comédien. Toute la journée. Voilà.
Merci beaucoup. Au revoir, merci Madame Ternois. Nous venons de parler avec Madame Ternois un petit peu finalement des talents, des activités que peuvent faire les patients mais aussi élèves. Nous accueillons maintenant Charlie et Milena. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Est-ce qu'un peu vous pouvez vous présenter tout d'abord?
Alors moi c'est Charlie, je suis en première à Quatre Cantons et j'adore dessiner et je peins aussi. Et là, j'ai présenté ici quelques-uns de mes projets.
D'accord. Et c'est quoi un peu ton style? Comment tu décrirais tes peintures?
Je dirais que c'est un peu très fantastique, un peu surréaliste. C'est des personnages qui deviennent d'autres personnages. Tout se mélange et c'est tout un univers. Enfin, moi, j'aime bien, quoi.
D'accord, merci. Milena, vas-y.
Moi c'est Milena, je suis en terminale à 4C et j'ai aussi présenté des peintures et des dessins à moi de mon carnet de dessin que je utilise pour faire un book pour l'école des Gobelins à Paris. Les thèmes que j'aborde un petit peu, ce serait plutôt des choses un peu autour du rêve, autour de choses qui sont pas tout à fait tangibles, etc., mais qu'on peut quand même qu'on pourrait genre apercevoir, je sais pas trop, mais un espèce de petit monde parallèle, une petite
Donc oui, vous avez deux styles différents. Et donc vous avez organisé ça un petit peu avec Madame Ternois. Est-ce que, Milena, tu viens de nous parler que tu voudrais faire donc, plus tard un petit peu ton métier et donc rentrer l'école des Gobelins à Paris. Et toi, Charlie, est-ce qu'il y aura aussi un lien plus tard avec tes études? Est-ce que tu voudrais faire de ta passion un métier?
Oui, alors moi, j'hésite à faire une école d'art plus tard, après mon bac, mais parce que j'aime bien toucher un peu à toutes les techniques, rentrer dans tout ce qui est plastique, dans l'art. Mais sinon, je m'intéresse beaucoup au tatouage et je pense me retourner vers ça plus tard.
Et le fait de présenter un petit peu vos œuvres, est-ce que ça vous permet de, pas forcément de reprendre confiance, mais de voir que ça plaît aux autres et que vous avez un réel potentiel
Ah oui, c'est sûr que là, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir que les gens s'intéressaient, regarder le carnet vraiment en détail, etc. Enfin, ouais, ça fait plaisir de voir que ça intéresse et que les gens puissent se plonger dans les dessins comme ça, c'est sympa. Sympa. Ouais.
Je suis d'accord dans le sens où on a aussi des retours qui sont très encourageants parce qu'on a des gens autour de nous qui sont assez bienveillants, etc. Et du coup, on a un retour assez positif de nos dessins et puis aussi des regards extérieurs. C'est toujours utile pour s'améliorer, etc. Et je trouve que franchement, ça fait plaisir parce que c'est pas... Enfin, après, je sais pas, mais c'est pas tout le temps qu'on montre vraiment tout son carnet de dessins, qu'on montre toutes ses œuvres, etc. Du coup, je pense que c'est une bonne opportunité de faire ça dans un cadre assez jovial et tout, avec des gens gentils, quoi.
Est-ce que finalement la clinique peut vous permet un petit peu donc de présenter vos œuvres? Est-ce que aussi vous avez pu avec la clinique faire des choses à l'extérieur?
On a pu faire avec Charlie une fresque pour en gros on avait un cours d'escrime et en fait ce prof d'escrime il avait
une salle de sport à décorer. Voilà.
D'accord. Oui, l'escrime, c'est une, ça fait partie des activités thérapeutiques de la clinique.
Oui, c'est ça. Et du coup, ce prof d'escrime nous a proposé de peindre une fresque dans sa salle de sport à Martin-Barol. Enfin bref, voilà. Et du coup, on a un petit projet de fresque autour du sport, comme ça.
Ouais, on a travaillé sur ça sur tablette graphique. À deux, donc on a eu Charlie qui a fait le posing pour les poses, etc., parce qu'on aimerait faire une fresque avec des sportifs, etc. Et franchement, dans la conception, c'était marrant. Enfin, j'ai trouvé ça cool quand on a fait ça à deux. Après, c'est pas fini, mais je pense que ça peut donner un truc très sympa.
D'accord, donc ça fait un petit travail de groupe. Et donc finalement, la clinique vous a un peu permis de...
Ouais, c'est une opportunité
d'agrandir. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas, merci Milena, merci Charlie.
Merci.
Une petite pause s'installe avec l'insatisfait de Suzanne, puis nous finirons par Antonin qui présentera la dernière partie.
Ça fait longtemps que c'est la routine avec ton célibat. Tu voudrais le plaquer pour une jolie fille plutôt sympa. Ton pote marié t'envie, lui, depuis 100 nuits. La passion est partie, reste la bague au doigt. Il irait jusqu'au bout du monde pour chercher ce qu'il a. Il veut jeter son job alors que toi t'en as même pas. Insatisfait à vie, est-ce une maladie? Un virus a guéri qui ne se guérit pas. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. Oh, 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 oh maintenant c'est un type aigri qui ne sait pas faire de choix. Insatisfait à vie, c'est une maladie, un virus aguerri qui ne se guérit pas. Il veut plus, c'est toujours plus, une seule chose suffit pas. S'il peut toucher la lune, il la jettera quand il l'aura. Puis Laura est partie, elle et les petits. Qu'est-ce qu'il aimait sa vie quand ils étaient là? Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses veines. Alors il fume, des vogues hallucinogènes dans la brume pour embaumer ses peines. Allez Laura, reviens. Je serai un mec bien. Allez, allez Laura, reviens. Je promets, je me sens pas vraiment bien. Alors il se fume, il fume.
Insatisfait à vie
dans la brume.
C'est une maladie.
Alors il se fume, il fume.
Insatisfait à vie
dans la brume.
Nous venons d'entendre L'insatisfait de Suzanne, et je suis Antonin, et nous allons continuer cette troisième partie du podcast sur la réadaptation. Je suis avec Madame Thor, bonjour.
Bonjour.
Madame Thor est une psychologue au sein de la clinique des Quatre Cantons.
Oui.
Mis à part vos suivis individuels avec les patients, est-ce que vous faites d'autres choses ici?
Alors oui, il m'est arrivé de proposer des prises en charge plus groupales plutôt qu'individuelles. Par exemple, la dernière en date, c'était un groupe thérapeutique autour de la régulation des émotions. Voilà, donc en fait, c'est un groupe où il s'agit de pouvoir apprendre à identifier ce qui se passe au niveau émotionnel pour les participants, dans le but ensuite de pouvoir apprendre à développer des stratégies de régulation des émotions. Alors, il y en a qui sont déjà utilisées, faire le point là-dessus sur est-ce qu'elles conviennent ou pas, quelles autres stratégies la personne peut développer ensuite, et dans le but de se sentir mieux ensuite avec l'apprentissage de plusieurs techniques.
Bah, je crois que tout a été dit. Hein. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Toujours dans cette troisième partie, toujours en compagnie de nos jeux flamands adorés, très bruyants, je reçois un membre d'une association de volleyball qui a été dépêché ici pour animer cette journée festive. Bonjour.
Alors bonjour, bonjour. Donc moi je m'appelle effectivement Thibaut et je fais partie du comité nord de volleyball. Alors moi je vais dans différentes écoles, effectivement à certains moments peut-être quelques cliniques, différents lieux pour pouvoir pratiquer le volleyball, parce qu'effectivement le volleyball c'est un sport collectif et ça permet à tout le monde de pouvoir justement s'aider, s'entraider pour évoluer dans ce sport-là, parce que comme on le sait, le volleyball, on a besoin d'un réceptionneur, d'un passeur, d'un attaquant, et on peut pas jouer tout seul. Il y a d'autres sports qu'on peut faire tout seul, mais le volley, c'est l'un des sports les plus collectifs. C'est pour ça que j'adore ça, aussi bien dans les, et j'interviens aussi bien dans les écoles que dans les clubs, que voilà, sur d'autres associations.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Alors justement, le contact avec les jeunes et le fait que, déjà l'esprit sportif, parce que moi ce que j'aime bien, c'est justement que les gens puissent s'épanouir dans une activité, puissent s'amuser, puissent progresser. On n'est pas forcément là pour gagner, mais on est là pour apprendre des choses aux jeunes et aux personnes qui souhaitent faire ça.
Merci beaucoup, à vous.
Merci à vous. Voilà.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Bonne journée. Toujours dans cette troisième partie, nous avons invité un éducateur de la clinique, Étienne. Bonjour.
Bonjour.
Étienne, parlez-nous de votre métier.
Alors, mon métier d'éducateur à la clinique?
Oui.
Principalement. À la clinique, en fin de compte, notre travail consiste principalement à accompagner les patients dans tout le système de réadaptation sociale. En gros, ça veut dire accueillir les jeunes qui, à un moment donné, sont un petit peu perdus dans leur vie, se retrouvent confrontés à des difficultés ont besoin justement de retrouver un certain équilibre pour retourner dans la société qui est parfois très compliquée, injuste avec eux. Et nous, notre travail, selon moi en tout cas, c'est de pouvoir les aider à un moment donné à trouver les armes, à trouver les outils qui leur permettront justement d'être plus forts pour se confronter à cette situation-là et ne plus être ce que moi j'appelle des victimes de la société simplement. Mais c'est très beau, mais c'est un petit peu...
Tragique aussi.
C'est un peu tragique, mais effectivement, c'est un petit peu ça. Alors, dans le quotidien, c'est voilà, beaucoup faire preuve d'écoute, de compréhension, de vérité. Parce que c'est des jeunes qui ont besoin d'entendre des choses qui sont vraies de pouvoir les orienter aussi à un moment donné, de pouvoir les aiguiller pour trouver leur place, parce que justement c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Un peu plus technique, voilà, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place des ateliers, des activités, ce qu'on appelle les ateliers thérapeutiques ou activités éducatives, ce n'est pas trop important, qui sont souvent soit à but sportif, tennis, musculation, piscine, ou un petit peu plus, je ne sais pas comment dire, mais voilà, on va parler plutôt par exemple de la sophrologie, l'atelier radio. avec des objectifs bien spécifiques à chaque fois, qui sont aussi nous travailler dans notre quotidien avec chaque patient, parce que chaque patient est différent, chaque patient a des besoins et des objectifs différents à atteindre. Du coup, voilà, et toutes ces activités vont permettre à un moment donné de travailler ces choses-là en les confrontant à voilà des choses qui ont besoin de travailler. Il y a aussi le soin études, forcément, où nous, on n'a pas trop la main dessus, mais on travaille en collaboration. Et soin études, puisque forcément, ces jeunes-là viennent pour reprendre le cycle scolaire, puisque la base de notre accueil ici se fait sur tout ce qui va être phobie scolaire et le fait que les jeunes ne sont plus scolarisés depuis parfois longtemps. Alors c'est pas systématique, mais c'est vrai que c'est en grosse partie le cas. Et voilà, le travail se fait en lien où nous on a tendance à aller à leur rythme autant que possible, à les pousser à reprendre la marche à suivre, c'est-à-dire de retourner en cours, de reprendre confiance aussi avec l'école, et les études sont là aussi pour leur montrer une autre facette de ce que ça peut être, pour derrière pouvoir repartir à un moment donné dans ce que j'appelle le milieu ordinaire, quoi, tout simplement.
Tu nous parlais tout à l'heure des activités thérapeutiques que toi et les autres éducateurs faisiez. Il y en a une qui a été créée par toi et que tu animes du coup depuis sa création, le Café Débat.
Tout à fait. Le Café Débat.
Qu'est-ce que c'est ?
Bah, le Café Débat, c'est en fait c'est un atelier qui m'est venu assez rapidement quand j'ai commencé à travailler ici. C'est à force de passer du temps avec les patients, principalement le soir, où on avait des échanges, des conversations sur divers sujets de société. Et beaucoup de choses ont émergé à cette époque où je me rendais compte que c'était des jeunes qui avaient beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et c'est logique quand on pense aux raisons pour lesquelles ils arrivent chez nous en fin de compte. Et je me suis dit, mais pourquoi pas créer un support un peu, c'est pas palpable, mais c'est une forme de support où on va pouvoir faire ça de façon cadrée et de façon ciblée sur des sujets vraiment précis qui soit sont parfois un petit peu troublants, parfois plus légers. En tout cas, c'est ce qui m'est venu, et moi ce que je voulais travailler surtout, c'est que ça vienne d'eux-mêmes. Je voulais que ce soit eux qui, à un moment donné, prennent l'initiative de dire « bah nous, on veut parler de ça ». Parce qu'au début, je m'étais dit « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je recherche des sujets ? Est-ce que je demande à des collègues ? Est-ce que je vais... » Et puis j'ai dit « non, en fait, ça ne m'intéresse pas de travailler comme ça. Ce que je veux, c'est que ce soit eux qui, à un moment donné, viennent et me disent « bah Étienne, nous, on veut parler de ça ». Parce que ça, ça nous parle, ça nous touche, ça nous met en colère, ça nous met en difficulté. Et c'est là qu'on peut vraiment tirer le meilleur parti de ces gamins, parce qu'ils ont tellement de choses à nous raconter que des fois ils nous apprennent des choses assez incroyables, parce qu'ils sont tellement sensibles qu'ils ont justement cette capacité à un moment donné à subir les choses de la vie, mais ils ont quand même beaucoup d'avis sur ces choses-là. Mais ils parlent de leur expérience, et c'est un petit peu ce que nous on fait aussi en fin de compte. Voilà. C'est parti loin, mais...
c'est parti loin, mais c'est parti bien.
Voilà.
Est-ce que, Étienne, tu pourrais aussi nous donner, par exemple, un exemple de débat que vous avez pu faire, enfin, que tu as pu faire avec les patients ?
Ouais, alors, voilà, depuis le temps, on en a fait pas mal. Il y en a qui sont revenus assez souvent. On parle des faits d'actualité. On a déjà parlé du droit de vote, par exemple. On avait parlé aussi de la question de l'avortement. C'était sous forme de support vidéo qu'on avait fait cet atelier-là. Au tout début, ça remonte maintenant. ça remonte pas si loin que ça, mais il y avait un débat que j'avais lancé. Alors là, c'est parce que les patients n'avaient pas trop d'idées. J'avais parlé un petit peu de la psychiatrie, et puis c'est parti sur un débat basé sur quelle image renvoie la psychiatrie sur le monde extérieur. La question du féminisme a déjà été aussi abordée. Donc voilà, des sujets qui sont parfois plus ou moins sensible, souvent sensible.
Oui, mais c'est intéressant parce qu'on a des avis très différents et ça permet aussi nous de savoir un petit peu argumenter. Quand on a des pensées, on ne sait pas toujours comment les expliquer. C'est peut-être ce type d'exercice finalement qui peuvent nous aider.
Et cela nous ouvre aussi à d'autres visions du monde qu'on n'a pas forcément.
C'était ça aussi l'objectif principal à un moment donné, c'était de dire c'est pas parce que ça va les mettre en difficulté de parler de ces sujets là parce que ça vient réveiller des choses chez eux aussi et des émotions, ce qui est pas toujours facile à contenir, mais moi je voulais travailler ça pour justement travailler la gestion derrière de ce que ça implique tel sujet, le fait que parfois on est confronté à de la frustration parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec soi, c'est parfois difficile à encaisser. Et c'est tout l'intérêt du café débat, c'est de pouvoir dire, bah, vous voyez, oui, vous êtes tous ensemble, vous entendez bien, il y en a qui sont copains, qui sont amis, mais ça ne veut pas dire qu'on s'entend sur tout. Et quand ils rentreront dans le monde des adultes, ils seront confrontés à ça, le monde du travail, le monde des adultes, c'est quand même un monde où finalement chacun se crée sa propre... idée de chaque sujet, et le but c'est aussi de se préparer à un moment donné à ça parce que parfois c'est pas facile.
Merci beaucoup Étienne.
Ben, merci à vous.
Donc c'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez pu apprendre des choses, que cette émission vous a plu avec nos intervenants. Je voudrais remercier donc tout d'abord Constance, Antonin et qui m'ont interviewé, ainsi qu'Arnaud, qui a aidé à mettre en place cette interview. Et voilà.
Merci à tous.
Nous espérons vous revoir une prochaine fois. Et je vous laisse avec Ceux qui rêvent de pommes. Au revoir.
Au revoir.
Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas, et moins je dors et plus je pense, et plus je pense et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence, qu'il est cosmique cet ennui, dois je recourir à la science, anesthésier l'insomnie. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas, et puis passé minuit je danse au rythme des tachycardies, et tout s'emballe et tout balance, et tout m'étale et tout me fuit. La lune est un fruit un peu rance, la vie est une maladie. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, et les autres ont des insomnies. Ceux qui rêvent ont bien de la chance, quant à moi j'ai des insomnies. Oh.